Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Fin de la campagne pour la présidentielle dimanche au Cap-Vert, présentée comme modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. L'Internet a été coupé lors de nouvelles manifestations pro-démocratie en Iswatini, dernier autocratie du continent. Ouverture de la 27e édition du FESPACO demain à Ouagadougou. En Afghanistan, au moins 40 morts dans un nouvel attentat suicide lors de la prière du vendredi à Kandahar, fief des talibans. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Cap-Vert, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour de la présidentielle. 7 candidats sont en lice, un record dans une présidentielle dans ce pays considéré comme un exemple de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Abdourahmane Dia.
La campagne électorale s'achève ce soir. Pendant 2 semaines, les cortèges des différents candidats ont sillonné les 9 îles de l'archipel. Parmi les 7 candidats, 2 sont présentés comme favoris. Il s'agit des anciens premiers ministres Carlos Vega, un avocat de 72 ans, et l'universitaire José María Neves, âgé de 60 ans. M. Vega est candidat du mouvement pour la démocratie majoritaire au Parlement. Quant à M. Neves, il est le porte-drapeau du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, deuxième parti à l'Assemblée nationale. Le président sortant, Carlos Fonseca, ne peut pas se représenter après ses 2 mandats. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50%, un second tour sera organisé le 31 octobre. Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire où le premier ministre domine l'exécutif, le président exerçant un rôle d'arbitre. L'un des enjeux du scrutin est de relancer l'économie. Le pays est très dépendant du tourisme qui a été durement affecté par la pandémie de Covid-19.
Le Niger ouvre à Niamey sa première école militaire pour former ses futurs officiers. Le président Mohamed Bazoum a assisté à la cérémonie d'ouverture et a déclaré que cette école sera un maillon important du dispositif de sécurité du pays. Pour cette première promotion, 26 officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale seront formés durant 9 mois. Par ailleurs, le président Bazoum a annoncé la création d'une école de l'armée de l'air à Agadez et d'un centre d'instruction de 5000 jeunes par an à Tawa dès 2022. Un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA sur 3 ans sera consacré pour accroître les capacités des forces aériennes nigériennes. Le FESPACO s'ouvre demain au palais des sports du quartier Ouaga 2000 au Burkina Faso. Pour cette 27e édition, les cinémas d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis seront à l'honneur. Le point avec Nanit Talani.
1 millier de festivaliers sont attendus pour cette grande fête du cinéma africain qui était initialement prévue du 27 février au 6 mars, mais a été reportée à cause de la pandémie. Dans la catégorie long métrage, 17 films africains et un d'Haïti vont se disputer la récompense suprême, l'étalon d'or du Yenenga. 29 courts-métrages, fictions et documentaires, ainsi que 17 séries télé ont aussi été retenus dans la sélection officielle. Selon le délégué général, Alex Moussa Sawadogo, toutes les dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire et sanitaire pour un bon déroulement. Les gestes barrières, le port du masque dans les salles de projection seront de rigueur. Les films seront projetés dans les salles et dans 10 espaces en plein air. Le FESPACO se tient tous les 2 ans à Ouagadougou depuis 1969. Des dizaines de films de tout format sont en compétition pour les talents d'or décernés par un jury international. Il est présidé cette année par le Mauritanien Abderrahmane Sissako, César du meilleur film pour Timbuktu en 2015.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra décrète un cessez-le-feu unilatéral dans la guerre contre les rebelles. S'exprimant sur la radio d'État, le président centrafricain a annoncé la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l'ensemble du territoire national à compter de minuit aujourd'hui vendredi. Monsieur Touadéra a précisé qu'il voulait ainsi privilégier la voie du dialogue. En RDC, un éco-garde a été tué dans une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga, situé dans l'est du pays. Les FARC, les forces armées congolaises, étaient présentes aux côtés des gardes lors de cette attaque. Les affrontements sont fréquents. Depuis 2020, une vingtaine de rangers ont été tués dans le parc des Virunga. 5 hauts responsables de l'armée et de la police congolaise ont été condamnés à des peines de 10 ans de prison pour détournement de fonds alloués aux opérations militaires dans le nord-est du pays. Le 21 juillet, 8 officiers de l'armée et un de la police nationale ont été arrêtés après une enquête de l'inspection générale des finances qui avait fait état de sérieux indices de détournement de fonds alloués à l'achat de rations pour les militaires combattants en Ituri. En Iswatini, la dernière monarchie absolue d'Afrique, le réseau Internet a été interrompu aujourd'hui pendant 2 heures au moment où des manifestations pro-démocratie se dirigeaient vers Mbabane, la capitale. Djini Kapumbu-Villa.
Pendant 2 heures, l'accès à Internet a été bloqué suite à la diffusion d'images des manifestations sur les réseaux sociaux montrant des blessés victimes présumées de la répression des forces de l'ordre. Les manifestations pour la démocratie qui se déroulent depuis 2 semaines dans l'ex-Swaziland, rassemblant des syndicats, partis d'opposition et organisations d'étudiants, exigeant notamment la libération de 2 élus d'opposition arrêtés en début d'année. L'armée a été massivement déployée dans les villes pour disperser les manifestants qui bloquent les principales routes qui permettent de sortir de ce pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Wander Nkosa, secrétaire général du syndicat Amalgamated Trade Union, déplore les répressions de la monarchie du roi Mswati III et l'accuse de dictature.
Mswati III, le roi d'Iswatini, a accusé vendredi les manifestants pro-démocratie de priver les enfants d'éducation après le ralliement d'écoliers et étudiants à leur mouvement. Dans ce petit royaume anciennement connu sous le nom de Swaziland, les élèves boycottent des cours et organisent des manifestations depuis plusieurs semaines, provoquant le déploiement de soldats et de policiers. Au Kenya, le mari d'Agnès Tirop, l'athlète de 25 ans dont le meurtre a suscité l'émotion, est interrogé après son arrestation hier à Mombasa. Agnès Tirop, double médaillée mondiale du 10 000 mètres et quatrième aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres, a été retrouvée cette semaine poignardée au domicile du couple à Item, dans l'ouest du pays. En Afrique du Sud, le pays va commencer la vaccination contre le Covid pour les adolescents à partir de 12 ans la semaine prochaine et offrir une possibilité de 3e dose aux personnes présentant des problèmes d'immunité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 41 personnes ont été tuées lors de la prière du vendredi dans un attentat suicide contre une mosquée chiite de la ville de Kandahar, berceau des talibans dans le sud du pays. Le point avec Nathalie Barge.
Selon des témoins, plusieurs explosions ont frappé la mosquée Fatemiye dans le centre de Kandahar, la 2e plus grande ville afghane, au moment de la grande prière du vendredi. 2 personnes ont pénétré dans la mosquée et ont tiré sur les gardes. L'un d'eux s'est fait exploser dans la mosquée, indiquait Sayed Roulin, employé de sécurité. Il a fait état d'un autre kamikaze à l'extérieur de l'édifice. Un responsable taliban local a confirmé qu'il s'agissait d'un attentat suicide. Pour l'heure, cette attaque n'a pas été revendiquée. Vendredi dernier, à la même heure, à Kunduz, dans le nord-est, un kamikaze avait déclenché un gilet explosif dans la foule lors de la grande prière du vendredi à la mosquée chiite de Gozar et Sayed, tuant au moins 40 de fidèles. Cette attaque, revendiquée par le groupe État islamique Khorasan, a été la plus meurtrière depuis le départ des troupes américaines le 30 août.
Au Liban, le Hezbollah pro-iranien et son allié, le mouvement Hamal, ont enterré ce vendredi leurs membres tués la veille dans les plus violents affrontements depuis des années dans le centre de Beyrouth et ravivé le spectre de la guerre civile. 6 des 7 personnes tuées étaient des membres des 2 mouvements chiites qui avaient organisé jeudi une manifestation devant le palais de justice pour exiger le remplacement du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts. La France a appelé l'Iran à mettre urgemment un terme à toutes ces violations d'une gravité sans précédent de l'accord sur son programme nucléaire, alors que les États-Unis agitent la menace d'une option militaire contre Téhéran en cas d'échec de la diplomatie, faisant pour la première fois clairement écho aux avertissements israéliens. Au Yémen, la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a affirmé avoir tué vendredi plus de 180 rebelles houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Mbarib, où les combats ont déjà fait des centaines de morts ces derniers jours. Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leurs frontières pour le 8 novembre, mais seulement aux personnes vaccinées contre le Covid-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Écho avec Marius Munga.
Le Cameroun bénéficie d'une ligne de crédit de 236,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour appuyer l'éducation et la formation professionnelle, améliorer la production agricole et l'autonomisation des jeunes filles. Ce projet, qui va durer 5 à 7 ans, devrait promouvoir des activités génératrices de revenus afin de favoriser une meilleure prise en charge par les groupes cibles. Les difficultés économiques de l'Afrique du Sud sont aggravées par des vols massifs de cuivre des entreprises d'État, Eskom et Transnet, dont une grande partie est passée en contrebande à l'étranger, rapporte Reuters. La société d'électricité Eskom s'attend à subir une perte nette de 15,2 milliards de rands cette année. Les vols de cuivre lui coûtent 5 à 7 milliards de rands par an, en plus de 2 milliards de rands qu'il lui faut pour remplacer des centaines de milliers de mètres de câbles volés. Selon la société ferroviaire Transnet, les vols de cuivre ont augmenté de 177% ces 5 dernières années, entraînant l'annulation d'une vingtaine des trains par jour. Le conglomérat d'énergie et d'infrastructures Sahara Group veut investir plus d'un milliard de dollars pour améliorer l'accès au gaz de pétrole liquéfié en Afrique et stimuler la transition énergétique sur le continent. Selon Financial Afrique, Sahara Group construit plus de 120 000 tonnes métriques de stockage de gaz liquéfié dans 15 pays, dont le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et la Zambie.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nani Salani. Bonsoir Nani.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Début ce vendredi du deuxième tour préliminaire aller des éliminatoires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération 2021-2022 avec l'entrée du TP Mazembe et l'AS Vita Club de la RDC exempté du premier tour. Le TP Mazembe a affronté en Afrique du Sud Amazulu en 16e de finale de la Ligue africaine des champions à 15h temps universel. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Vita Club joue aussi en Afrique du Sud depuis 16h temps universel contre Marumo Gallant FC. L'équipe algérienne a obtenu la délocalisation de son match retour contre le Djibouti pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. Programmée au Maroc, la rencontre aura lieu en Égypte. L'Algérie a refusé de jouer au Maroc à cause des tensions entre Alger et Rabat et aussi pour une histoire de l'état chaotique de certains terrains. But contesté de Mbappé, l'UEFA promet une reformulation de la règle du hors-jeu après le but de la victoire française en Ligue des Nations inscrit dimanche par Kylian Mbappé contre la Roja, un but correctement arbitré mais contraire à l'esprit du jeu. L'arbitre anglais Anthony Taylor a pris une décision correcte basée sur la règle existante et son interprétation officielle, a déclaré ce vendredi le responsable de l'arbitrage au sein de l'UEFA, Roberto Rossetti. Selon la règle actuelle, un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Pour lui, il est donc important d'améliorer la formulation de la règle. Le mari de l'athlète kényane de 25 ans Agnès Tirop, qui a été poignardé à mort à son domicile, a été placé en détention ce vendredi. Considéré comme le principal suspect, Emmanuel Rotik a été arrêté hier dans la ville de Mombasa, trahi par son ancienne carte SIM qu'il a utilisée dans son nouveau téléphone après avoir passé des jours sans se connecter. Le suspect sera traduit en justice. Pour terminer, le Cameroun n'organisera plus la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme de 2022 en raison de l'indisponibilité du complexe sportif de Lembe, selon une décision de la Confédération africaine d'athlétisme. L'île Maurice, qui devrait abriter cette compétition en 2024, organisera donc celle de l'année prochaine. Le Cameroun se chargera des championnats de 2024.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Dubourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ouvre ses portes demain samedi, et ce jusqu'au 23 octobre prochain. À Ouagadougou, l'heure est au dernier réglage et tous promettent que la fête du cinéma africain sera belle. Reportage de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Lamine Traoré.
Au siège du FESPACO à Ouagadougou, le réto préparatif avec les derniers réglages avant la grande fête du cinéma africain. Issiaka Guiré est responsable d'une société de logistique.
C'est nous qui montons les chapiteaux qui vont abriter les festivités du FESPACO cette année. Actuellement, nous sommes en train de déployer un baie vitrée qui va abriter les cérémonies du FESPACO. Tout se passe bien, disons qu'on a quelques heures de l'ouverture et nous sommes actuellement à 95% des réalisations des travaux.
La délégation du festival de son côté reste aussi sereine. Tout est mis en œuvre pour la réussite du festival. Moussa Alex Sabadogo, délégué général du FESPACO.
Nous sommes quasi prêts, je peux le dire ainsi, parce que les grandes étapes, les grandes activités des préparatifs ont été déjà réalisées. Nous sommes juste en train de peaufiner, pas des soucis, quelques points, afin que la fête soit belle dès le 16 octobre. Ce fois, j'ai confiance et les autorités aussi ont promis au monde entier de mettre les moyens et les moyens sont mis en place. Question que nous arrivons à vraiment à faire rêver le monde est du 16 au 23 octobre.
Au Palais des Sports de Ouagadougou va se tenir la cérémonie d'ouverture du FESPACO ce samedi. À l'intérieur, une centaine de danseurs révisitent les derniers pas. Dania Maouzou, acrobate.
Et nous sommes prêts, nous sommes vraiment 100% quoi. Voilà, pour les divertir du FESPACO pour 2021.
Vous avez préparé quoi?
On a préparé des pyramides et même les flip-flops aussi.
Idrissa Kafando est danseur.
Donc là, on est dans les dernières corrections pour essayer d'être vraiment très millimétré dans tout ce qu'on propose comme énergie, comme mouvement et tout. Voilà, donc vraiment, on est en train de laver pour avoir une matière qui est vraiment très très propre. Voilà.
Tout le spectacle d'ouverture est confié à un grand chorégraphe burkinabé.
Nous serons au rendez-vous.
Serge Mekoulibaly, chorégraphe.
On est à quelques heures et nous sommes presque prêts. Dire qu'on est prêt dans une création, dans de l'inventivité, c'est un peu trop, mais en réalité nous serons au rendez-vous. Et les gens seront surpris et agréablement surpris de nous retrouver dans le palais des sports de Ouagadougou.
Initialement prévu du 27 février au 6 mars dernier, la Biennale du cinéma africain a été reportée pour se tenir du 16 au 23 octobre à cause de la pandémie de la COVID-19. Pour le FESPACO 2021, ce sont 239 films qui ont été retenus par le jury pour les différentes catégories. 17 films sont en compétition pour le sacre suprême, l'étalon d'or de Yenega, qui récompense le meilleur long métrage. Et le rideau va tomber au soir du 23 octobre. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'approbation par l'Organisation mondiale de la santé du premier vaccin contre le paludisme au monde marque une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie transmise par les moustiques et qui tue près de 265 000 enfants africains chaque année. La mesure suscite de l'espoir au Nigeria, un des pays les plus touchés par le paludisme. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja, le récit est de Lionel Gaïma.
Bitrous Youssouf verse du sirop dans un gobelet de mesure pour le donner à sa fille de 3 ans et à son petit-fils qui souffre tous les deux de paludisme. Il dit que le parasite transmis par les moustiques qui cause la maladie n'est que trop courant dans ce camp pour les déplacés internes à Abuja.
We entered to bed. All is well, everybody well. Nous nous sommes couchés. Tout allait bien. Tout le monde allait bien. Mais vers minuit, je l'ai entendu frissonner. En touchant son corps, il avait une forte fièvre. Alors, je l'ai réveillé.
L'OMS affirme qu'environ 94% des cas de paludisme dans le monde surviennent en Afrique et que le Nigeria représente un quart des décès. Selon cette agence onusienne, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert pour le déploiement du premier vaccin contre le paludisme au monde, nommé Mosquirix. Il est fabriqué par la société pharmaceutique GlaxoSmithKline après plus de 3 décennies de recherche. Pour l'OMS, Mosquirix pourrait potentiellement changer le cours de l'histoire de la santé publique. Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS au Nigeria.
Vous savez, avant que le vaccin ne puisse être introduit dans le pays, il doit être approuvé par la NAFDAC pour le cas du Nigeria. Il y a des mesures à prendre pour que le pays approuve le vaccin afin que l'injection puisse commencer.
NAFDAC fait référence à l'Agence nationale pour le contrôle des aliments et des médicaments au Nigeria. Au cours d'un programme pilote à grande échelle qui a débuté en 2019, quelques 2,3 millions de doses du vaccin ont été administrées à des enfants au Malawi, au Kenya et au Ghana. L'OMS affirme que le vaccin, une fois déployé, pourrait aider à prévenir jusqu'à 4 cas de paludisme sur 10. Mais Dr Mulombo prévient qu'il pourrait y avoir des problèmes logistiques au début.
Il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, donc il se pourrait que nous ne recevions pas la quantité dont nous avons besoin pour toucher tout ce que nous devons atteindre. Mais nous comprenons que GSK, le fabricant, travaille déjà avec certains pays africains pour décentraliser la production.
Le responsable du Conseil de santé primaire d'Abuja, Daio Iwot, a déclaré que ce nouveau vaccin n'éliminait pas la nécessité de prendre d'autres mesures de prévention du paludisme.
Si vous ne le combinez pas avec le fait de dormir sous des moustiquaires imprégnés et de prendre soin de votre environnement où les vecteurs peuvent se reproduire, alors vous risquez davantage de contribuer à la persistance du fléau du paludisme dans ce pays.
GlaxoSmithKline dit qu'il va fabriquer environ 15 millions de doses du vaccin par an, mais les experts disent qu'au moins 50 à 100 millions de doses sont nécessaires chaque année dans les zones à transmission. En attendant, les parents nigérians comme Bitrous Youssouf disent qu'ils espèrent faire vacciner leurs enfants dès que possible.
Congolaise Julienne Lusenge a décroché le prestigieux prix humanitaire Aurora 7 mois après le prix Femme de Courage du département d'État américain. Connue pour avoir ouvert la voie à des dizaines de jugements pour violences sexuelles dans l'est de la RDC, elle est aussi très active à travers son association Sophé Padi dans les processus de démobilisation des jeunes enrôlés par les groupes armés. Jointe par Nathalie Barge, Julienne Lusenge réagit d'abord à ce prix décerné dimanche à Venise en Italie.
Pour nous, c'est notre message pour nous dire, voilà, il faut encore plus d'engagement, continuer à apporter sa contribution au changement, à la protection des droits humains. Le prix est pour financer 3 organisations. Une organisation qui s'occupe des femmes déplacées et une autre organisation qui s'occupe des veuves et des orphelins, mais aussi des questions de l'énergie renouvelable. Mais nous allons toucher en fait plusieurs provinces parce qu'il y aura une partie de ce fonds qui va être pour le fonds pour les femmes congolaises, la structure qui donne des petites subventions aux autres organisations. Donc nous allons donner plus de subventions aux organisations à travers le pays pour que plus de personnes puissent être touchées.
Alors quand vous dites d'autres provinces, pourriez-vous nous rappeler de quelle province il s'agit en particulier?
Le Nord Kivu, l'Ituri, la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, et aussi à Kinshasa.
Est-ce que vous pensez donner plus de voix afin que la violence armée commence à disparaître dans la région?
Bon, nous, nous apportons notre contribution en termes de sensibilisation, en termes de formation sur la transformation et la résolution des conflits, en termes de négociation, de médiation, mais aussi pour les questions de paix, nous sensibilisons les jeunes à quitter les groupes armés. Et nous continuons à faire beaucoup de plaidoyer au niveau des autorités pour changer la situation. Aujourd'hui, nous avons un programme national de mobilisation communautaire. Nous espérons vraiment qu'ils vont impliquer les groupes de femmes pour que ce programme puisse répondre aux besoins des communautés, pour que ce programme puisse vraiment apporter des réponses concrètes pour la paix. Donc, nous sommes toujours à l'œuvre sur plusieurs fronts avec les communautés, les chefs coutumiers, les chefs religieux, parce que nous savons seuls, on ne fait rien. Mais si on est ensemble, on arrive à avoir des résultats. Il y a des femmes qui sont arrivées ici, des jeunes, les gens venaient de Béni et de Butembo et de Litori. Ce sont les survivants de ce massacre qui s'est passé à Béni. Donc, j'ai facilité à ce que ces gens puissent parler directement au président. Et le président a été très impressionné des rapports qui ont été réalisés au niveau de la base. Aussi, je venais de rencontrer récemment le gouverneur du Nord Kivu pour partager avec lui des informations sur les allégations d'abus sexuels et d'exploitation. J'ai eu le temps d'échanger un peu avec lui sur l'état de siège parce que nous devons aussi sensibiliser la communauté pour que la communauté se désolidarise de ces groupes d'armes et de toutes les actions qui se permettent là-bas.
Julienne Lusenge, présidente de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral en RDC. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM. Travailleurs immigrés de la maison de retraite Goodwin House dans le nord de la Virginie sont originaires de 68 pays. Lorsque les retraités résidents ont appris que les frais de 725 $ pour demander la citoyenneté étaient dissuasifs pour de nombreux employés, ils ont décidé à leur tour d'aider ces immigrés qui les aident au quotidien. Le reportage de Laurel Bowman de la VOA, le récit est de Ginny Niwa Kapumbu-Villa.
Qui était le deuxième président des États-Unis?
John Adams.
De pareilles questions pourraient dérouter plus d'un Américain.
D'où la décision des résidents de la maison d'aider les employés immigrés à se préparer aux tests pour acquérir la citoyenneté américaine. Ce membre du personnel appelle son tuteur « mon père ».
Comment appelle-t-on les 10 premiers amendements à la Constitution?
The Bill of Rights.
La Déclaration des droits.
Les personnes vivant à la maison de retraite Goodwin House font plus que donner des cours particuliers aux travailleurs immigrés. Lorsque les résidents ont appris qu'il fallait débourser 725 $ pour la demande de citoyenneté, ils ont trouvé ce coût prohibitif. Alors, ils ont décidé de collecter des fonds pour aider ces immigrés qui leur rendent tant de services. Rita Sibenaler, résidente de Goodwin House.
Citizenship for the people who have met all the requirements.
La citoyenneté pour les personnes ayant satisfait à toutes les exigences ne devrait pas être une proposition si coûteuse.
En 2018, elle a lancé le programme par lequel les résidents paient les frais de demande de citoyenneté en faveur des employés migrants. Rita Sibenaler, résidente de Goodwin House.
So we put out the word. And through a combination of resident donations and staff.
Alors nous avons fait passer le mot et grâce à une combinaison de dons de résidents et du personnel, nous avons eu environ 40 000 $ en 2 semaines. Il nous a fallu un peu de temps pour convaincre le personnel que c'était réel et qu'ils devaient l'envisager. Mais après que les premières personnes ont introduit leur demande, puis étudié le test et obtenu leur citoyenneté, ce fut comme une traînée de poudre.
It was just like wildfire.
Maribel Carancera, originaire des Philippines, est la directrice des services de restauration de la maison de retraite. Elle a bénéficié de la générosité des résidents qui ont payé pour qu'elle puisse devenir citoyenne américaine.
Je viens travailler non seulement pour l'argent, je me donne à 100% pour eux avec tout mon amour. Je traite chacun d'entre eux comme un membre de ma famille. Oui.
Ngoc Nguyen, originaire du Vietnam, a été régulièrement interrogée par les résidents alors qu'elle cherchait à obtenir la citoyenneté américaine.
They were
Il cherchait plus d'informations pour m'aider à mieux comprendre l'histoire américaine et comment devenir citoyen, non seulement pour réussir le test, mais aussi comment être un bon citoyen.
90 membres du personnel immigré de Godwin House se sont engagés dans le processus d'octroi de la citoyenneté, nouant du coup des amitiés avec leurs enseignants plus âgés.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morazibour. Ainsi que va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.